Bonjour à tous. Alors, je suis content d'être parmi vous ce matin. J'étais déjà venu plusieurs fois, donc j'en ai déjà vu, rencontré certains, mais c'était les vendredis soirs pour les études bibliques. Et aujourd'hui, c'est le premier culte avec vous, donc c'est sympa aussi. Je vous transmets les salutations de l'Assemblée de Villefranche. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez, j'allais dire, presque eu un culte présidé par Villefranche, parce que Geoffrey, c'est un ancien de Villefranche. Et puis aujourd'hui, vous m'avez moi aussi de Villefranche. Mais vous nous avez aussi envoyé Pierre Solotki pour la prédication et on s'en réjouit aussi. Et d'habitude, je viens seul et cette fois-ci, je suis venu avec ma famille. J'ai que des filles, moi. Donc ma femme, Anne-Claire, et puis Eva et Maëline. Vous voyez tout le monde ce matin. Alors ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez le vertige? Il y en a qui ont le vertige ou pas? Ouais. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur. Je vais vous inviter à prendre de la hauteur, peut-être beaucoup de hauteur, quitte à avoir le vertige. Je vais m'appuyer sur plusieurs textes bibliques ce matin et non pas juste un seul. Plusieurs textes bibliques et puis aussi un article, le premier article de notre confession de foi. Dans les églises CAEF, on a tous la même confession de foi, parfois elle est déclinée, mais en tout cas, on a tous la même et le premier article nous parle de Dieu. Et ce matin, je voulais vous inviter à penser, à parler, à réfléchir sur Dieu. Et en général, quand on réfléchit à Dieu, on prend un peu le vertige. Alors, je vous pose une première question. Vous réfléchissez pour vous en interne. Quand vous pensez à Dieu, si vous essayez de le décrire, à quoi est-ce qu'il ressemble pour vous ? Réfléchissez-y un peu. Peut-être que pour certains, Dieu ressemble à Superman. Il a des super pouvoirs, il vole au secours des gens, il affiche un bon comportement, il défend la vérité, la justice, la veuve, l'orphelin. Ou alors peut-être que pour d'autres, Dieu ressemble à un tendre grand-père, souriant, gentil, attentionné envers ses petits-enfants, mais qui leur apprend quand même les choses essentielles, les leçons essentielles de la vie pour leur bien. Ou peut-être que pour d'autres, vous imaginez plutôt Dieu comme un père fouettard. Parce que franchement, la vie ne vous a pas fait de cadeau. D'ailleurs, le monde est bien trop dans le chaos pour pouvoir imaginer un bon Dieu. Quand on pense à Dieu, quand on essaye nous-mêmes de le décrire, finalement, est-ce que Dieu n'est pas comme nous, en fait ? Alors je vous cite un auteur qui s'appelle Jonathan Liman qui dit ceci. « Dans son état naturel, chacun de nous pense que Dieu lui ressemble. Nous croyons que Dieu s'irrite contre les choses qui nous irritent, qu'il apprécie les choses que nous apprécions. Nous pensons qu'il aime les personnes que nous aimons et qu'il déteste celles que nous détestons. Même lorsque nous agissons mal, nous supposons que Dieu comprend notre façon d'agir et qu'il n'en fait pas tout un plat. Nous savons que Dieu a une connaissance supérieure à la nôtre, qu'il est moralement supérieur, qu'il est meilleur que nous. Cependant, nous continuons de supposer que, de manière générale, Dieu est sur la même longueur d'onde que nous, quant à la justice et à la morale, qu'il partage nos idées sur l'amour et la sexualité, sur nos politiques et nos passions, sur ce que c'est qu'une vie digne d'être vécue. Au fond, Dieu est comme nous, comme moi. » Alors Dieu est-il vraiment comme nous, comme moi ? Réponse ? Non. En fait, Dieu n'est pas, mais alors pas du tout comme nous. Il est un être totalement différent de nous. Mais étant donné que nous, on essaye sans cesse de le réduire à notre image, et tout à l'heure, tu as lu ça dans le livre des Actes, que les hommes cherchent à tailler des idoles. On essaye sans cesse de réduire Dieu à notre image. Ben, la Bible, elle, ne cesse de nous répéter que Dieu n'est pas semblable à nous. « Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Ésaïe 46, verset 9. Et nous croyons en Dieu, en un Dieu qui n'est pas du tout semblable à nous. Nous croyons en un Dieu qui nous dépasse infiniment, qui est infiniment différent de nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que cela prouve que le Dieu biblique, le Dieu de la Bible, est vraiment Dieu et pas une idole que l'homme aurait pu inventer. Parce qu'on va y réfléchir un petit peu. Quel homme aurait pu inventer un seul Dieu qui existe en trois personnes? Parce que oui, nous croyons en un seul Dieu trinitaire. Alors je vous lis le premier article de notre confession de foi qui commence comme ça. Nous adorons un seul Dieu qui existe en trois personnes de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout en partageant pleinement la même et unique nature divine, les trois personnes demeurent distinctes et des rôles distincts leur sont appropriés. Le Père communique éternellement l'être et la vie au Fils, l'Esprit reçoit éternellement l'être et la vie du Père et du Fils, le Père conçoit les projets divins et accomplit ses œuvres envers la création par la médiation du Fils, le Père et le Fils sont présents au monde et y agissent par l'Esprit. Alors ça c'est peut-être un peu intellectuel, comme disait tout à l'heure Geoffrey, on va essayer d'expliquer tout ça. On croit en un seul Dieu qui existe en trois personnes, on appelle ça un Dieu trinitaire, la Trinité ou la Triunité. Ça, c'est une exception, une originalité, une particularité purement chrétienne. Aucune autre religion n'a quelque chose de similaire. Dans d'autres religions, vous pouvez avoir trois dieux, mais ce sont trois dieux différents. Nous, on a un dieu en trois personnes. La Trinité, c'est une des croyances fondamentales de la foi chrétienne. On sort du christianisme si on ne croit plus ou si on ne croit pas en la Trinité. La Trinité, c'est un mystère. Et toutes les images, toutes les analogies qu'on pourrait avoir pour expliquer la Trinité, vous en avez peut-être, par exemple, parfois on parle d'un œuf, il y a la coquille, le blanc et le jaune d'œuf, ça fait trois en un. Mais toutes ces images, elles ont des limites. Et elles ne représentent pas correctement la Trinité. Et c'est normal. Et c'est même tant mieux. Parce que la Trinité, c'est comme rien d'autre. C'est unique comme Dieu. Un Dieu trinitaire, ça c'est un Dieu qui nous dépasse totalement, totalement différent de nous. La Trinité, et quand on pense à la Trinité, ça nous oblige, nous, à l'humilité et à l'adoration. On ne peut pas imaginer cerner Dieu. Nul n'est semblable à lui. Si on arrivait à cerner Dieu, on pourrait alors le mettre dans une boîte, on pourrait le mettre dans des limites finies, purement humaines, dans un mouchoir de poche, et on aurait alors un Dieu bien petit et bien trop humain en fait. La Trinité, quand on y pense, ça nous remet à notre place. Regardez ce qu'on découvre de la Trinité. La Bible affirme qu'il n'existe un seul Dieu. Elle affirme que Dieu existe qu'une seule fois. Donc par exemple, Deutéronome 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul, ou l'Éternel est un, l'Éternel est unique. » On croit en un Dieu unique. J'essaie de vous trouver des synonymes. Un Dieu unique, insécable, indissociable, un être et c'est tout, une seule essence. Mais la Bible affirme aussi que ce Dieu unique existe en trois personnes. Elle affirme que le Père est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. 1 Corinthiens 8, verset 6. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Le Père est Dieu. Mais elle affirme aussi que le Fils est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. Jean 1, verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Et quand on lit la suite de Jean 1, on découvre qu'on parle de Jésus. Donc Jésus est pleinement Dieu. Et elle affirme aussi que l'Esprit est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. Donc là, dans le passage de Actes 5, on a Pierre qui reprend Ananias et Saphira. Ils ont détourné de l'argent. Et Pierre leur dit à Ananias, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit. » Puis il continue à lui parler. Puis à la fin, il dit, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu aussi. Ces trois personnes, le Père, le Fils, l'Esprit, ne sont pas trois parties de Dieu. Elles ne sont pas non plus trois modes de Dieu. Parce que parfois, certains pensent que le Dieu le Père, c'était comme ça que Dieu s'était révélé dans l'Ancien Testament. Dans les évangiles, Dieu se révèle comme Jésus-Christ, mais Dieu le Père n'est plus là. Et puis maintenant qu'on est passé à l'Église, et alors c'est Dieu l'Esprit. Et on n'a plus Jésus et le Père. Mais ce n'est pas le cas. Dieu le Père existe depuis toujours et il subsiste depuis toujours. Et pareil pour le Fils et pour l'Esprit. Toutes les trois sont Dieu à part entière depuis toujours et pour toujours. Elles possèdent une divinité égale, une seule essence, trois personnes qui subsistent éternellement et trois personnes qui sont aussi distinctes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce ne sont pas la même personne avec trois noms différents. Ce sont trois personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, etc. Chacun est distinct. Et la preuve avec ce verset-là, Matthieu 3, verset 16 à 17, c'est quand Jésus se fait baptiser, quand il sort aussitôt après avoir été baptisé, Jésus, une personne sortie de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu, une autre personne distincte, descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel, la voix du Père, une troisième personne distincte, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Père, Fils, Esprit sont distincts, différents, et pourtant ils ne forment qu'un seul Dieu. Ce qui distingue ces trois personnes dans notre Dieu, ce sont finalement leurs relations. Le Père, on dit souvent que le Père n'est engendré par personne et ne procède de personne. Le Fils est engendré par le Père et l'Esprit est engendré par le Père et le Fils. Donc pour représenter la Trinité, souvent on utilise ce schéma, ça peut vous aider. Quand on pense à la Trinité, en fait, ça nous remet à notre place. L'être humain serait incapable d'inventer un tel Dieu. Parce que l'être humain ne peut inventer que ce qu'il peut concevoir. Et on ne peut pas concevoir un Dieu comme ça, qui nous dépasse totalement. Nous croyons en un Dieu trinitaire qui nous dépasse totalement. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change de croire en un Dieu trinitaire, en la Trinité au fond? Alors il faudrait prendre la question en sens inverse. Si notre Dieu n'était pas Trinité, qu'est-ce qu'on n'aurait pas? Eh bien, sans la Trinité, on n'aurait pas de Dieu d'amour. Parce que si notre Dieu n'était pas trinitaire, il pourrait être unique, seul, tout puissant, ça il pourrait, mais il ne pourrait pas être amour. Parce que pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un je qui parle à un tu. Et donc je l'ai dit précédemment, ce sont les relations dans la Trinité qui définissent finalement, qui différencient notre Dieu. L'amour, c'est ce qui est au cœur même de la personne de Dieu. Si Dieu n'était pas trinitaire, il aurait été obligé de créer quelqu'un d'autre pour aimer. Et si Dieu avait été obligé de faire quelque chose, alors il n'aurait pu être libre et il n'aurait pas été Dieu. Mais Dieu n'a pas été obligé de créer quelqu'un pour aimer, parce que notre Dieu est amour. Ça fait partie de son essence naturelle, parce qu'il y a la Trinité. En lui-même, il est une communauté d'amour. Et cet amour existe et se vit de toute éternité parce que Dieu est trinitaire. On a un Dieu, on l'a chanté, on l'a dit dans les prières aussi, un Dieu d'amour. Et cet amour, il nous le partage, il nous le donne librement sans avoir besoin du coup de retour. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Savez-vous que Dieu ne gagne rien à être aimé de nous? Parce qu'il est amour déjà en lui-même. Il est amour depuis toute éternité. Dieu ne gagne rien à être aimé de nous. Alors vous allez me dire, bah alors pourquoi on a des commandements qui nous disent qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur, etc. Si Dieu nous demande de l'aimer, ce n'est pas pour recevoir de notre part quelque chose qu'il n'aurait pas. Il a déjà tout en lui-même. En fait, si Dieu nous demande de l'aimer, c'est uniquement pour nous. C'est nous qui gagnons tout à aimer Dieu. Parce qu'en aimant Dieu, Dieu nous fait participer finalement à son amour que lui vit depuis toute éternité. C'est nous qui avons tout à gagner à aimer Dieu et pas lui. Un autre point, si on n'avait pas la Trinité, eh ben, il n'y aurait pas non plus de vie en Dieu. Parce que Dieu, quand il a créé le premier être humain, il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Du coup, ça serait difficile d'imaginer que Dieu, lui, aurait été seul depuis le début. Mais Dieu n'est pas seul, puisqu'il est trinitaire. Dieu ne s'est jamais ennuyé depuis toute l'éternité. En lui se trouve, ça a été lu aussi ce matin, comme le dit l'apôtre Paul, en lui se trouve la vie, le mouvement et l'être. On a un Dieu vivant, un Dieu qui partage tout ce que la vie a de beau à partager. Il veut nous partager librement cette vie qui est en lui. Et si on n'avait pas la Trinité, le dernier point, c'est qu'on n'aurait pas non plus de communion possible avec Dieu. Si Dieu n'était pas trinitaire, il n'y aurait aucune relation en lui et aucune communion possible avec lui. Mais Dieu est en relation. Et son désir, son plaisir, c'est de nous faire entrer dans cette relation, au sein de cette relation, de nous permettre de connaître cette communion et de la vivre en Christ et par l'Esprit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle, le salut. Ce Dieu qui est totalement différent de nous s'est rapproché de nous pour nous inviter à entrer dans son amour, dans sa vie, dans sa communion qui existe déjà en lui et qui subsiste pour l'éternité. Nous croyons en cette sainte Trinité et nous maintenons que Dieu, notre Dieu, est ainsi parce qu'en fait c'est comme ça qu'il se révèle à nous dans sa parole. Parce qu'il faut bien l'avouer, pour que l'être humain, avec toutes ses limitations possibles, puisse connaître Dieu, lui qui est totalement différent de nous, eh bien, il faut bien que Dieu se révèle à nous. Il faut que Dieu nous dise qui il est. Et ça, c'est mon deuxième point. Nous croyons en un Dieu qui se révèle. Au lieu de faire de la spéculation, c'est quand l'homme, par lui-même, essaye de mettre en lumière ce qui est caché. Et donc, il essaye de tailler des idoles, de se créer des dieux, etc. Mais quand on fait ça, souvent, on a des dieux qui sont bien comme nous. Si vous regardez les dieux de la mythologie, ce sont tous des dieux qui nous ressemblent tellement. Des dieux qui sont adultères, des dieux qui sont méchants, des dieux qui commettent des péchés eux-mêmes, etc. Ça nous ressemble tellement. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Nous croyons, nous, en un Dieu qui se révèle, c'est-à-dire un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme pour lui révéler, pour lui mettre en lumière ce qui est caché. Et Dieu, en général, se révèle de deux manières différentes. Ce qu'on appelle la révélation générale, la création, la conscience du bien et du mal, ça peut nous aider à prendre conscience que Dieu existe. Mais la révélation générale, elle est universelle, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour qu'on puisse connaître parfaitement Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la deuxième révélation, la révélation spéciale. Ça, c'est Dieu, c'est la parole verbale de Dieu. C'est Dieu qui nous parle directement, comme il a parlé aux prophètes. Ou on a besoin de la révélation, de la parole écrite. Dieu a fait écrire par Moïse les 10 commandements, etc. Et puis nous, aujourd'hui, on a l'écriture. Et puis, bien sûr, la meilleure des révélations spéciales, c'est la parole de Dieu faite homme en Jésus-Christ. Celui qui m'a vu, disait Jésus, a vu le Père. C'est par lui qu'on connaît notre Dieu. Et avec l'action de l'Esprit, la révélation spéciale est suffisante pour nous permettre de connaître Dieu. Et connaître Dieu, ça, c'est jouir du salut, de la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de Dieu par sa révélation? Je pourrais faire le tour et vous demander, qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Qu'est-ce que vous avez appris de Dieu par sa révélation? Mais en fait, ça serait très long. Donc, je vous lis là la suite de notre article, de notre confession de foi, qui est obligé de faire un résumé. Voici ce qu'on connaît de Dieu. Nous croyons que Dieu est absolu, immuable, tout-puissant, omniprésent, omniscient, parfaitement sage, saint, juste et bon. Il est esprit, il est vérité, il est amour. Il est le créateur de toutes choses et tout subsiste par lui et en lui. Il est souverain sur toute la création. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand on réfléchit à chacun de ces mots, c'est là où, personnellement, je prends le vertige. Alors, on va essayer d'y réfléchir un petit peu. Nous croyons que Dieu est, le premier terme dit, absolu. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est absolu ? C'est par exemple lorsque Dieu dit, je suis celui qui suis. En fait, mes filles, l'autre jour, me disent, mais il y a une faute de grammaire, de français là-dedans. Ben, c'est comme ça que Dieu se décrit. Il dit, je suis. En fait, il est depuis le début. Tout ce qui existe sur terre a un commencement. Un jour, je n'existais pas avant, et un jour, je suis né. J'ai eu un début. Mais Dieu, non. Au commencement, Dieu était là. Et puis c'est tout. Il existe depuis toujours. Et c'est ça quand on dit il est absolu. Il existe de par lui-même. Il ne tire son existence de personne d'autre que lui. Pour exister, Dieu ne dépend d'aucune cause extérieure. Il ne dépend pas non plus de quoi que ce soit ou de qui que ce soit pour aimer, pour être juste, etc. Il ne lui manque rien. De toute éternité, à aucun moment, il n'a jamais rien manqué à Dieu et il ne manquera jamais de rien. Il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien, il est absolu. Il est. Et comme Dieu est, Dieu ne connaît aussi aucune limite. Réfléchissez, Dieu n'est pas limité par le temps. Il n'est pas lié par la loi du temps, parce qu'il l'a lui-même créé en fait. Nous les hommes, on est liés par la loi du temps. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne connaît pas l'avenir, parce que le temps pour nous c'est un rideau opaque qui nous empêche de voir au-delà. Mais Dieu n'est pas lié par l'obstacle du temps. Sa vision n'est pas obscurcie par la notion du temps qui passe, la notion du temps présent, la notion du temps futur, etc. Le temps est dans la main de Dieu. C'est pour ça qu'on lit des versets comme « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Dieu n'est pas lié, limité par la notion du temps. Du coup, Dieu n'est pas influencé par le temps. Alors que le temps a une influence sur nous. Hein. On prend des cheveux blancs, on change extérieurement, on change intérieurement, etc. Mais là-dessus encore, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas lié par le temps. Le temps n'exerce aucune influence sur lui. C'est pour ça que nous croyons qu'il est immuable. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Et puisqu'il est immuable, c'est pour ça qu'on peut faire reposer toute notre foi, toute notre confiance sur lui. Puisque le temps n'a pas d'influence sur lui, je peux avoir confiance en lui. Ce qu'il a promis un jour, il l'a promis pour toujours. Puisqu'il est immuable, alors il est fidèle. Puisqu'il est fidèle, ce qu'il dit est vrai, et donc il est vérité. Dieu n'est pas lié par le temps. Dieu ne connaît aucune limite. Rien ne peut, par exemple, du coup, rien ne peut limiter non plus sa puissance. Aux hommes, il y a des choses impossibles, mais à Dieu, tout est possible. Toutes les lois que Dieu a créées dans l'univers et auxquelles nous, les hommes, nous sommes soumis, Dieu peut, lui, intervenir en transcendant ces lois, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toutes ces lois. Puisqu'il n'est pas lié à elles, eh ben c'est pour ça qu'on peut attendre de Dieu qu'il fasse des miracles, des prodiges. On peut attendre de Dieu qu'il agisse au-delà de tout ce que nous, on pourrait imaginer. Dieu ne connaît aucune limite à sa puissance. Il est tout puissant. C'est pour ça qu'on trouve dans la Bible, en effet, des miracles. C'est pour ça qu'on voit Jésus qui ressuscite des morts. Nous, on ne peut pas le faire, ça. Mais lui, il est au-dessus de tout. C'est même pour ça qu'on voit dans la Bible, dans le Saint Testament, avec le roi Ézéchias, que même Dieu recule le temps. Et ça, on ne peut pas faire. Mais lui, il dépasse toutes les lois qu'il a créées. La seule limite à la toute-puissance de Dieu, c'est sa propre volonté. Il ne fera jamais quelque chose qui est contre sa volonté. Et c'est à partir de la toute-puissance de Dieu et de sa volonté que l'on peut affirmer que Dieu est souverain sur toute la création. Rien de ce qui se passe dans l'univers ne le prend par surprise. Il n'est pas dépassé par aucune de nos situations. Il est absolument souverain. Il a le droit d'obtenir qu'advienne sur terre ce qu'il veut, et il a le pouvoir de le réaliser. Dieu est tout-puissant. Il ne connaît aucune limite. Donc il ne connaît aussi aucune limite du point de vue de l'espace. Dieu n'est pas enfermé là par ses quatre murs. Dieu n'est pas enfermé par les lois de l'espace qui nous lient, nous. Il est distinct de notre dimension espace, c'est-à-dire qu'il peut être hors de l'espace et dans notre espace. Il est transcendant, encore une fois. Il est au-dessus de tout ça. D'ailleurs, c'est parce qu'il est au-dessus de tout qu'on peut dire aussi que Dieu peut juger toute chose. Comme Dieu n'est pas limité par l'espace, et là aussi on prend encore le vertige, comme Dieu n'est pas limité par l'espace, Dieu est infini. Il n'y a pas de fin à sa présence ou à son être. C'est pour ça que le psalmiste, par exemple, dit « Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle ? Où pourrais-je fuir pour t'échapper ? Dans quel endroit est-ce que toi, Dieu, tu ne serais pas ? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite me saisira. L'espace ne constitue aucune difficulté pour Dieu. Il peut à la fois être hors de l'espace, dans l'espace, et c'est pour ça que Dieu peut s'impliquer dans nos vies personnelles, dans notre espace qui nous est propre, sans en être prisonnier. Et en plus de ne pas être limité par l'espace, Dieu est aussi esprit. C'est-à-dire qu'il n'a pas de corps comme nous. Donc il n'est pas limité par un élément matériel qui l'empêcherait d'être à un endroit en même temps qu'à un autre. Du coup, tout ceci, ça implique que Dieu est omniprésent. Ça veut dire que Dieu est partout présent. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un vide, il n'y a pas un espace qui ne pourrait revendiquer, qui ne pourrait dire « Dieu n'est pas ici ». Dieu est là. Et le dernier verset que tu as lu dans l'Ecclésiaste le dit aussi. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette. Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Il est là aussi. Et comme il ne connaît aucune limite, il ne connaît aucune limite non plus du point de vue de la connaissance. Il possède la connaissance absolue. On dit qu'il est omniscient. Le psalmiste au psaume 139 le dit aussi, il connaît tous nos faits et gestes, toutes nos pensées, tout notre cœur, tous les centres névralgiques de notre être, il les connaît. Rien n'est caché à ses yeux, il n'y a pas de cachette pour Dieu. Il sait tout, il nous connaît, même avant le début de notre vie. Il n'y a pas un événement, pas une pensée, il n'y a pas un historique internet, il n'y a pas un complot, ni un secret qui ne pourrait porter l'étiquette. Dieu n'est pas au courant de cela. Dieu est au courant de tout. Il connaît tout. Alors on pourrait compléter cette liste avec bien d'autres choses, bien d'autres attributs, bien d'autres qualités de Dieu. On monterait encore dans les hauteurs. On pourrait relever, par exemple, vous pouvez le faire quand vous lisez la Bible, relever tous les noms de Dieu qui nous aident également à connaître Dieu et à le voir vraiment comme un être qui est totalement différent de nous. Mais ça serait toujours insuffisant pour décrire qui est Dieu. Parce qu'il ne peut pas être pleinement, parfaitement compris. Parce que sa grandeur dépasse notre capacité d'investigation. Nos cerveaux, ils sont trop limités pour connaître, pour comprendre, pour décrire le Dieu que nous avons. Il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Et ça, c'est vertigineux. On a constamment de nouvelles choses à apprendre à son sujet. Quelqu'un a même dit qu'on n'aurait même pas assez de l'éternité pour connaître et pour s'émerveiller devant Dieu. On découvrira toujours de nouvelles choses sur lui. On n'a pas les mots non plus pour parler de Dieu. On dit que Dieu est amour, c'est vrai. Mais il est infiniment plus que ce que nous pouvons prétendre être de l'amour sur terre. Ça nous dépasse son amour. Mais ça, c'est notre Dieu. Et c'est en ce Dieu-là que nous croyons. Maintenant, qu'est-ce que ça change de croire en cela? Quel impact ça a sur notre vie? Parce que normalement, tout ce que nous croyons doit avoir un impact sur notre vie et ça devrait être aligné. Normalement, on devrait vivre ce que l'on croit. Parfois, notre vie montre qu'en fait, on ne croit pas vraiment ce que l'on croit. On dit par exemple que Dieu nous écoute, que Dieu peut agir, que la prière est efficace, etc. Et puis en fait, on ne prie pas beaucoup et on n'y croit pas trop. Et on essaye de faire tout par nous-mêmes. Donc ce que l'on croit, ça doit toujours être aligné avec comment on vit. Donc c'est mon dernier point, ce que nous croyons de Dieu détermine notre style de vie. Et le premier article de notre confession de foi se termine comme ça. À lui, à Dieu, sont dus au suprême degré confiance, obéissance, reconnaissance, amour et louange. Quand on cherche à connaître Dieu, notamment à travers l'Écriture et Christ, quand on cherche à connaître Dieu de plus en plus, ça change ou ça devrait changer notre façon de vivre, notre manière de le craindre, notre manière de le respecter, notre manière de l'adorer, notre manière de l'approcher aussi. Je ne sais pas comment on s'approche de Dieu, comment vous vous approchez de Dieu, mais je ne m'approche pas de Dieu comme si c'était quelqu'un qui était semblable à moi. Je m'approche de quelqu'un qui est totalement différent de moi. Et il est bon de se rappeler cela quand on pense à Dieu, quand on parle de Dieu ou quand on parle à Dieu. Parce que l'individualisme, l'égoïsme, va souvent nous pousser à voir Dieu comme un Dieu Superman ou comme un Dieu qui est mon pote, mon copain, un Dieu qui est là même à notre service, mais ce n'est pas forcément le cas. Je cite de nouveau Jonathan Lehman qui dit « La prise de conscience de la puissance et de la plénitude autosuffisante de Dieu devrait nous fermer la bouche chaque fois que nous sommes tentés de penser que Dieu nous doit quelque chose ou que nous pouvons lui apporter une chose supplémentaire. Dieu ne nous doit rien. Il ne se laisse pas manipuler par nos requêtes, nos revendications ou nos vantardises. Il ne nous est redevable de rien et nous n'avons aucun droit indépendant de lui. Nous n'avons rien à lui apprendre. Dieu est le roi créateur et il est préférable de garder le silence en sa présence. » Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a gardé le silence devant Dieu, en pensant à qui il est, en méditant sur sa grandeur? Il est préférable de garder le silence en sa présence. Il est préférable, d'autres l'ont vécu comme ça aussi, de se prosterner devant ce Dieu-là. C'est la position qu'ont adoptée plusieurs prophètes lorsque Dieu s'est révélé à eux. Quand ils ont vu sa grandeur, sa sainteté, ils sont tombés à genoux. Devant un tel Dieu, il est préférable de le contempler, de contempler celui qui est à la fois le lion et l'agneau. On pourrait dire, « Ô Seigneur, révèle-toi à moi. Aide-moi à mieux te connaître par ta révélation, ta parole, ton Fils, ta création. Aide-moi à apprendre de nouvelles choses sur toi. » On peut faire nôtre aussi la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. « Demandons que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, nous donne par son Esprit, on a la Trinité, que ce Dieu-là nous donne sagesse et révélation pour que nous le connaissions, que notre Dieu prenne la place qui lui est due dans notre vie. » Parce que soit Dieu devient le centre de notre système solaire doctrinal, soit Dieu devient le centre de tout notre système de croyance, de tout ce en quoi on croit, soit c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ce centre-là. Et ça arrive parfois. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Pardonne-moi, Dieu unique, de mon idolâtrie. Pardonne-moi pour toutes ces fois où je te taille à mon image, bien trop petit. Ce que nous croyons de Dieu détermine notre style de vie. Notre Dieu, même s'il est totalement différent de nous, n'est pas pour autant un Dieu impersonnel. Il dit « Je suis celui qui suis ». Donc si Dieu peut dire « Je », c'est qu'il est un être personnel. Il est quelqu'un, quelqu'un d'unique, d'incomparable, certes, mais quelqu'un. Quelqu'un qui veut que nous le connaissions. Quelqu'un qui veut que nous ayons une relation avec lui. Quelqu'un qui veut nous faire participer à sa vie, à sa communion, à son amour. Parce que nous avons rejeté, rejeté tout ça. On avait rejeté son amour, on avait rejeté la vie éternelle qu'il nous donnait, on avait rejeté la communion avec lui. Mais Jésus le Fils est venu pour nous révéler ce Dieu-là qui veut être en relation avec nous. Et Jésus est venu pour nous permettre de vivre à nouveau cela avec Dieu, pour nous permettre de goûter à l'amour de Dieu, pour nous permettre d'être en communion, en relation avec Dieu, et pour nous permettre de vivre avec Dieu, et cela pour l'éternité. Donc notre Dieu, c'est un Dieu personnel, quelqu'un avec qui nous pouvons, nous devons même, d'avoir une relation. Quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un à qui on va obéir, quelqu'un envers qui on peut être reconnaissant, quelqu'un que nous pouvons aimer, quelqu'un que nous pouvons louer. Dieu nous invite en Jésus, par l'Esprit, à avoir une relation avec lui, et ça pour l'éternité. Et cette relation qu'on va entretenir petit à petit, elle va nous aider à être de moins en moins enclin à penser que Dieu est semblable à nous, et au contraire, elle va nous aider à être de plus en plus encouragés à devenir semblables à lui, c'est-à-dire des individus saints, une église charitable, une église aimante, parce qu'on a un Dieu d'amour, une communauté de personnes qui manifestent la gloire de Dieu devant le ciel et sur la terre. Et je conclus en citant le pasteur Gilles Geyser, qui dit ceci: nous croyons en Dieu, un être totalement différent de nous. Et voici ce que Gilles Geyser dit: Dieu nous dépasse totalement. Il nous dépasse par sa connaissance, par son intelligence, par sa grandeur, par sa dimension, par son amour aussi, par la pureté de son être, par ses pensées, par sa bienveillance. Clairement, totalement, sans aucun doute possible, nous sommes dépassés par ce qu'il est et qui il est. Son infinité, ses qualités, son être échappent à notre compréhension. Et ce serait une illusion de croire que nous le comprendrions mieux si nous étions plus intelligents. Pour bien comprendre Dieu, il faudrait être Dieu. Cela signifie en clair que tout ce que nous pourrions comprendre de lui restera toujours en deçà, en dessous de ce qu'il est réellement. Nous comprenons de lui ce qu'il nous en dit. Nous voyons de lui la facette de son être qu'il nous propose. Nous sommes dépassés par ce Dieu-là. Et il est juste que nous nous sentions vraiment dépassés par lui. Il est juste aussi que nous commencions par dire que ce que nous connaissons de lui, nous le connaissons uniquement dans la mesure où il a bien voulu se révéler à nous. Et c'est un cadeau de grande valeur. Il nous dépasse totalement, c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il est un père qui connaît ses enfants et qui aime être reconnu, connu par eux comme leur père. Alors comme devant un tel Dieu, il est préférable de garder le silence, si vous êtes d'accord, je vous propose de prendre une minute de silence et vous contemplez Dieu, on contemple Dieu ensemble, on repense à ce qui a été dit et je conclurai en priant. Seigneur, tu es Dieu, tu es au ciel, tu fais tout ce que tu veux, tu es grand et tu es totalement différent de nous. Personne ne t'est comparable. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous pour toutes les fois où nous te limitons, où nous te faisons ressembler à nous. Seigneur, je te prie que par ton esprit tu ouvres nos yeux, notre intelligence, nos cœurs, pour te connaître de plus en plus, pour te voir tel que tu es. Merci parce que tu n'as pas voulu nous laisser dans l'ignorance, mais tu t'es révélé à nous, notamment en Jésus-Christ. Merci parce qu'à travers lui, nous avons pu te voir, nous avons pu te connaître. Merci parce qu'à travers lui, nous avons pu connaître ton amour infini alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions éloignés loin de ta vie, de la communion, de l'amour. Merci parce que tu t'es révélé à nous tel que tu es. Je te prie vraiment pour que tu ouvres nos yeux, pour qu'on grandisse en connaissance de toi. Seigneur, te connaître, c'est vivre, et nous voulons vivre pleinement et abondamment aussi avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous as aussi laissé ton esprit en nous, qui vit en nous, pour nous ouvrir justement notre intelligence à chaque fois que nous lisons ta parole. Et je te prie que cet esprit soit agissant pour que nous ayons une bonne image de toi en nous et pour que tu nous tailles nous-mêmes à ton image, à ta ressemblance, pour qu'aux yeux du monde aussi nous puissions révéler, montrer le Dieu que tu es. Seigneur, ensemble nous voulons te rendre la gloire qui t'est due, la louange, l'honneur, l'adoration, te dire que nous t'aimons, toi le Dieu qui est totalement différent de nous, mais qui nous aime profondément et qui veut nous faire vivre avec lui. Merci pour qui tu es, notre Dieu. Amen.